Audiron. Bonsoir Didier Ribon.
Bonsoir.
Et bonsoir à tous. Vu l'assistance extrêmement fournie ce soir à Librairie Développement, je comprends mieux le plaisir et la fierté de l'équipe de la librairie à l'idée de vous accueillir ce soir pour ce livre Sociobiographie.
Merci. Si vous permettez, je me tourne un petit peu pour voir tout le monde.
Balayer tout le monde, bien sûr.
Voilà.
C'est finalement la position centrale.
Voilà.
Nous allons faire un peu plus d'une heure d'échange, si vous voulez, autour de votre livre, qui va être l'occasion, comme le livre le permet, de faire un voyage dans vos travaux, dans votre œuvre. Et on va s'arrêter à quelques stations, si vous voulez bien. Mais en premier lieu, comment vous définiriez ce livre, qui est à la fois une biographie, mais qui est une sociobiographie, qui est un livre d'entretien? Comment un objet finalement assez à part dans sa forme et dans son contenu?
En fait, c'est un de mes anciens étudiants qui a fait sa thèse avec moi, qui m'a proposé de faire ce livre d'entretien. J'ai dit oui, et on s'est embarqué dans cette aventure qui a pris beaucoup plus de temps que nous ne l'avions imaginé, parce que je suis pas toujours disponible, et lui avait son propre travail, ses propres voyages, donc ça a pris un certain temps. L'idée qu'il avait, c'était de revenir sur mes différents livres, leur enchaînement, leur conception, mais aussi sur les problèmes que je pose dans ces livres, c'est-à-dire c'est à la fois biographique, autobiographique, comme vous l'avez dit, si je peux le dire, mais c'est aussi une sorte d'analyse des mondes dans lesquels j'ai écrit, des mondes sur lesquels j'ai écrit. Et donc le titre sociobiographie, on a beaucoup hésité sur le titre, parce qu'on trouvait que sociobiographie, c'était un peu rébarbatif pour le... Et on a choisi ça parce que ça indique bien ce que nous voulions faire, c'est-à-dire une biographie de moi qui ne soit pas biographie de moi, mais aussi des mondes sociaux, des situations sociales, des contextes sociaux, mon milieu social d'origine dont j'ai parlé dans Retour à Reims, etc. Et donc c'était sociobiographie, mais aussi sociobiographie, c'est un peu l'idée que je développe dans mes livres, par exemple le livre qui a précédé celui-ci, qui s'appelle Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple, qui est sur ma mère, mais qui n'est pas sur ma mère, puisque c'est ma mère comme incarnation d'une classe sociale, comme on peut dire incarnation typique d'une classe sociale. Mon éditeur néerlandais, quand ils ont traduit ce livre, voulait changer le titre et mettre « Vieillesse et mort de ma mère ». Et j'ai dit non, parce que ce n'est pas un livre sur ma mère. Si on fait ça, on perd l'idée qui est au centre du livre, qui est précisément une sociobiographie. Ce n'est pas une biographie de ma mère, c'est une biographie sociale de ma mère, c'est-à-dire la biographie collective d'une classe sociale et d'une femme. D'une femme de la classe ouvrière, du nord de la France. Donc sociobiographie englobait tous ces points que j'essaie d'évoquer brièvement.
Et sur la forme, c'est aussi un livre d'entretien, c'est pas un livre d'écriture.
C'est un livre d'entretien, oui. On a travaillé, on se voyait une fois par semaine, il venait chez moi, on parlait, souvent on faisait ça directement sur l'ordinateur, il me posait des questions, je répondais, et puis on a relu, retravaillé, il ajoutait des questions, j'ajoutais des réponses, je retravaillais les réponses parce que parfois je n'en étais plus satisfait, c'est un dialogue, et je trouve que ça donne une forme... assez dynamique. C'est pas un exposé théorique. Enfin, il y a des exposés théoriques dans les réponses, mais c'est pas un long exposé théorique. C'est une conversation. Au cours de laquelle je réponds à ces questions.
Et pendant laquelle vous revenez sur les thèmes, les sujets forts autour desquels vous avez travaillé, alors qu'on va reprendre, vous avez évoqué autour de Reims, on va en reprendre quelques-uns. Je dois dire, moi, en introduction, que je ne suis pas sociologue, je suis journaliste, et je vous le disais, en vous accueillant, j'ai eu plaisir de découvrir que vos premières armes, j'ai envie de dire, de critique littéraire, Libération, Un Nouvel Obs, mais finalement, dans le livre, on retient pas que vous gardez un souvenir fabuleux de cette activité de journaliste qui a été au début de votre carrière.
J'étais étudiant en philosophie, d'abord à l'université de Reims, puis à l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et j'ai mis en route, je me suis inscrit en thèse, mais évidemment, je n'avais pas d'argent pour, n'étant pas un enfant de la bourgeoisie, je n'avais pas d'argent pour vivre et écrire une thèse. Il fallait que je travaille, j'étais veilleur de nuit dans les hôtels, etc. C'était pas des conditions idéales pour rédiger une thèse. Et par les hasards de l'existence, on pourra revenir sur ces hasards, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait à Libération et qui m'a dit « tu devrais écrire des articles pour nous ». Et j'en ai écrit un, puis deux, et je suis devenu critique littéraire à Libération. Et alors, à la fois, ça a été une très grande expérience pour moi, parce que ça a été, comment dire, mon entrée dans le monde intellectuel, dans la vie intellectuelle, et puis avoir comme métier de lire des livres et d'écrire des articles sur les livres, c'était pas le métier le plus difficile qu'on puisse trouver. Donc j'étais très heureux, je rencontrais des auteurs, j'allais interviewer Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, etc. Ma vie était... j'étais content. Simplement, le monde du journalisme est un monde très dur, très difficile, même dans les journaux de gauche, où l'autoritarisme, l'esprit de censure...
Vous décrivez l'incroyable niveau de brutalité des rapports.
Brutalité dans les rapports humains, oui, les rapports, la hiérarchie, le sens de la hiérarchie. Et c'était un moment où Libération, qui avait été créé dans le sillage de mai 68, Libération, sous la houlette de son directeur Serge Julie, entamait un processus d'évolution vers... ce qui faisait leur succès, c'était d'être différents, mais ils ont voulu ressembler aux autres journaux, c'est un journal qui glissait de plus en plus vers la droite, il faut bien dire, au sens... c'était pas un journal de droite, mais par rapport à leur origine, c'est un journal qui allait de plus en plus vers une gauche modérée, Serge Julie donnant une tribune hebdomadaire à Alain Duhamel, qui avait déjà des tribunes dans tous les journaux de France et de Navarre, qui était justement une sorte de normalisation de Libération, qui fait d'ailleurs que ce qui a été son succès a été aussi ensuite les raisons de son échec retentissant et de sa dégringolade, et aujourd'hui qui est la propriété de groupes financiers, comme tous les journaux d'ailleurs. C'est le monde, il faut bien voir que nous vivons dans un monde où tous les médias sont la propriété de grands groupes financiers, et on peut imaginer que si des milliardaires achètent des journaux, des télévisions, des radios, c'est pas par philanthropie ou par goût de la diffusion des idées ou de la culture, mais parce qu'ils y ont leurs propres intérêts. Donc ça se sent dans l'uniformisation, l'homogénéisation du paysage médiatique, mais aussi, comme vous le disiez, la brutalité des rapports humains dans un journal, que ça soit Libération.
Donc j'ai quitté Libération. Et oui, ces médias ne sont plus le lieu de diffusion de la pensée telle qu'ils l'ont été à une certaine époque.
Ils l'ont été, oui, ils l'ont été. D'une certaine manière, ils le restent. Mais heureusement, aujourd'hui, ces journaux n'ont plus le monopole de la diffusion des idées, des discussions. Vous avez tout un tas de médias alternatifs, alors plus ou moins bien, plus ou moins sérieux, mais il y a une dissémination. On dit toujours Internet, les réseaux sociaux, mais non. Alors je connais les inconvénients et les défauts de Internet et des réseaux sociaux, mais ça permet aussi la diffusion en ligne de médias alternatifs qui ne vivent que de leurs abonnements, des abonnés, et qui sont libres. J'ai donné récemment un long entretien à un média qui s'appelle Blast. C'est un entretien d'une heure et demie où la journaliste qui s'appelle Soumaya Benaïssa m'interroge pendant une heure et demie en toute liberté. Elle me pose les questions qu'elle veut me poser, je fais les réponses. Il n'y a aucune contrainte. Et c'est vu autant que ça le serait si c'était publié dans un journal, parce que ces médias ont leur écho, les gens qui les suivent, qui les regardent, qui leur font confiance. Et donc je trouve que grâce à Internet, nous avons accès à une pluralité de médias, de voix, d'expressions. Et ça n'est pas comme auparavant deux ou trois grands journaux ou deux ou trois grandes émissions de télévision. Et sinon, il n'y a pas de salut en dehors de ça.
On reviendra peut-être tout à l'heure sur un des aspects du travail journalistique que vous évoquez également dans Sociobiographie. Mais dans ce livre, vous revenez aussi sur les grandes rencontres qui ont été celles qui ont émaillé votre vie. Vous venez de citer Bourdieu, Foucault, Lévi-Strauss. Pourriez-vous les hiérarchiser? Quelles lectures ou rencontres, justement, ont été décisives pour vous?
La rencontre décisive pour moi, ça a été avec Pierre Bourdieu, évidemment. Quand j'ai commencé à faire des articles pour Libération, un de mes tout premiers articles a été sur Pierre Bourdieu. Et puis, je lui ai proposé un entretien. Peu de temps après, il a dit oui, et c'est un de mes tout premiers entretiens. Et nous sommes devenus amis à ce moment-là, qui était une amitié étroite, complice, durable. Et ça a été une rencontre décisive. On a souvent comme ça des rencontres décisives dans nos existences. Et lui, ça a vraiment été la rencontre décisive. Ce que je suis aujourd'hui est en grande partie lié à cette rencontre avec Pierre Bourdieu, qui était un homme d'une intelligence prodigieuse, mais ça, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, vous en êtes convaincus, mais surtout d'une gentillesse et d'une générosité assez incroyable, qui passait du temps à donner des conseils. C'était quelqu'un d'assez merveilleux. Oh, il avait ses défauts, comme tout le monde, qui n'a pas de défauts, mais c'était quelqu'un d'assez merveilleux. Sa générosité m'a accompagné dans toutes les premières années de mon entrée dans la vie intellectuelle, et je n'ai jamais été son étudiant, mais je dois dire que j'étais son lecteur avant de le rencontrer, et évidemment j'ai continué de lire tout ce qu'il écrivait, et je dois dire que c'était une rencontre décisive. La deuxième rencontre décisive a été avec Michel Foucault. Quand j'y repense, d'ailleurs, je dis ça dans Sociobiographie. Je ne sais pas si j'ai gardé ce passage, parce que j'ai beaucoup coupé pour pas que ça fasse 500 pages. Quand j'y repense, moi, le petit étudiant qui habitait à la périphérie, dans une cité ouvrière à la périphérie de Reims, et qui, quelques années après, me retrouvait être ami avec Pierre Bourdieu et Michel Foucault, c'est quelque chose d'assez vertigineux. Et je encore aujourd'hui, j'en suis assez je suis assez frappé par ça, et des hasards, des rencontres, voilà.
Et oui, c'est d'ailleurs un des aspects qui apparaît. C'est, il y a un côté hasard dans, oui, de l'enchaînement de ces rencontres qui est assez frappant dans ce que vous racontez.
Oui, le et aussi les échecs, parce que si j'avais réussi l'agrégation de philosophie alors que je l'ai raté deux fois, on ne voulait pas de moi dans l'enseignement secondaire, si, alors que j'aspirais à ça, je rêvais d'être prof de philo dans un lycée, on n'a pas voulu de moi.
Si, avant de devenir journaliste d'ailleurs.
Avant de devenir journaliste, c'est parce que j'ai raté ça que je suis, pas un hasard, je suis non, échec plus hasard, mais et comme je n'ai pas pu faire une thèse, je suis devenu journaliste et par le journalisme, j'ai rencontré un certain nombre de gens à partir desquels j'ai pu reconstruire une autre trajectoire, un autre parcours qui a été d'écrire des livres qui m'ont ouvert l'accès à l'université, notamment aux États-Unis, puis en France. Et donc, mais alors, tout ça est lié à l'échec. Si j'avais réussi l'agrégation, si j'avais fait une thèse, je n'aurais jamais rencontré Pierre Bourdieu ou Michel Foucault. Donc, il y a un caractère productif des échecs. J'ai vu un article, il y avait une exposition dans un musée à Paris, je ne sais plus, qui s'appelle Flop, et qui est sur qu'est-ce que c'est, comment l'échec peut être producteur, parce que quand vous échouez, ben l'échec, quand j'ai raté l'agrégation, quand j'ai dû arrêter ma thèse, j'étais très, très triste, très amer, très souvent désemparé, parce que vous dites qu'est-ce que je vais faire maintenant, vous n'avez pas de solution. Et par des hasards, des rencontres, mais aussi par, je sais pas, je vais pas me faire des compliments, mais une sorte d'énergie, de survie. Je ne veux pas vivre cet échec comme un drame dans mon existence. Je dois faire quelque chose d'autre, rebondir. Et donc une sorte d'énergie du désespoir qui m'a permis de faire autre chose et d'écrire des livres. Et alors par exemple Michel Foucault. Comme j'étais journaliste, j'ai fait mes premiers livres ont été des livres d'entretien, un avec Georges Dumézil et un avec Claude Lévi-Strauss. Et alors ces rencontres ont été très importantes pour moi. Et ensuite j'ai fait une biographie de Michel Foucault. D'ailleurs, quand j'écrivais cette biographie de Michel Foucault, je suis venu plusieurs fois à Clermont-Ferrand, puisqu'il avait été professeur pendant plusieurs années, cinq ans je crois, ou six ans même à l'université de Clermont. Et je suis venu rencontrer ses anciens collègues, ses anciens étudiants, consulter les archives du département de philosophie et de l'université. Donc Clermont-Ferrand est une ville qui a été importante dans mon travail et j'aime toujours beaucoup, beaucoup venir à Clermont puisque je n'en ai que des souvenirs assez comme ça merveilleux.
Pour revenir sur la question de l'échec que vous venez d'effleurer, en fait, il ne faut pas avoir honte de ces échecs, puisque vous avez aussi beaucoup travaillé sur la honte, finalement. Pour clore ce sujet sur l'échec qui a été bénéfique pour vous, quoi, finalement.
Alors, les échecs ne sont pas toujours bénéfiques, parce que il y a beaucoup de gens qui échouent et qui, malheureusement, un des facteurs, c'était un concept de Pierre Bourdieu qui parlait de miracle social. J'ai souvent vécu ma trajectoire comme l'effet d'une sorte de miracle social. Comment, moi qui suis né dans un milieu, quand j'étais enfant, ma mère était femme de ménage, mon père était ouvrier, puis ma mère est devenue ouvrière quand mon père était au chômage, dans un milieu assez pauvre, où évidemment la culture n'existait pas. Il n'y avait pas de livres, on n'allait pas au cinéma, on n'allait pas au théâtre, c'était ce que Annie Ernaux appelle des vies marquées par la nécessité. Il n'y avait pas de superflu. Ma mère, quand elle rentrait de l'usine, elle était épuisée. Je suis lessivé, comme elle disait, et elle faisait une petite sieste d'un quart d'heure, 20 minutes, puis elle faisait la cuisine, le ménage, nourrissait les enfants et tout. La double vie de travail des femmes, que phénomène bien connu. Mais donc, moi, j'ai grandi dans un milieu où il n'y avait pas de culture, et j'étais destiné à, à écrire des livres, à enseigner à l'université de Berkeley, etc., à être ami de Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss. Et donc, je suis le fruit d'un miracle social. Oh, mais dans Retour à Reims, je dis ce miracle, il y a deux noms. Il y a la massification scolaire, ce qui fait que c'était un moment où l'enseignement secondaire s'ouvrait, plus ou moins, mais quand même à des enfants de milieux plus larges que ce qui avait été le cas auparavant, jusque-là. Et l'autre aspect du miracle, c'est mon homosexualité, qui fait que j'ai rencontré des gens que je n'aurais pas été amené à rencontrer si je n'avais pas été gay à ce moment-là. Ouais, je le suis toujours, hein, mais je veux dire que maintenant, évidemment, par exemple, je parlais de j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait à Libération, qui m'a dit « tu devrais faire des articles pour nous ». Or, cette personne, une journaliste de Libération, était venue dîner chez quelqu'un qui était un garçon avec qui j'avais une histoire amoureuse à l'époque. C'était un enfant de la bourgeoisie, il avait invité un de ses amis architectes et qui est venu avec sa compagne. Et sa compagne, c'était cette journaliste de Libération. Et on s'est revus, on a sympathisé. Donc l'homosexualité, d'une certaine manière, ouvre des possibilités sociales sans faire une mythologie de ça, mais une sorte de brassage des milieux qui fait que on a accès à des choses. Si j'avais été hétérosexuel, je serais resté dans mon milieu social mon ascension sociale, en tout cas, aurait été grandement limitée. D'autant que, j'étais différent et je le savais, je vivais dans un milieu très homophobe. Mon père, quand il regardait la télévision, il voyait apparaître Jean Marais, lançait des insultes homophobes contre l'écran de télévision. Et quand vous avez 8 ans, 10 ans, vous comprenez pas trop de... Et puis quand vous arrivez à 15 ou 16 ans, vous comprenez que cette insulte, c'est vous qu'elle vise. Et ça fait un effet de destin, d'effroi. Vous êtes terrorisé, vous avez honte, vous avez peur. Vous dites, ça va être comme ça toute ma vie, jusqu'au moment où vous dites, c'est comme ça et je dois l'assumer et braver cette violence là. Et donc, à 16 ans, 17 ans, je me suis mis, pour différer, puisque j'étais différent, j'ai voulu différer encore plus, je me suis mis à lire Marguerite Duras. Je me revois achetant « Détruire, dit-elle » de Marguerite Duras. Et lire Duras, c'était une manière d'être gay sans pouvoir, à l'époque, vraiment l'être. Donc, le miracle social, il est aussi lié... l'adhésion à la culture, le cinéma, le théâtre, la littérature, la philosophie, Simone de Beauvoir, lire les mémoires de Simone de Beauvoir, c'était quand j'avais 18 ans, 19 ans, c'était un enchantement, parce que je rêvais des mondes qu'elle décrivait, des milieux qu'elle décrivait, la vie intellectuelle et culturelle parisienne. Je rêvais de ça. Évidemment, c'était un rêve inaccessible. Je n'avais aucune possibilité, aucun moyen d'y accéder. Mais malgré tout, ça a orienté mes fantasmes, mes désirs, mes aspirations. Et tout ce que j'ai essayé de faire par la suite, je peux dire comme ça, un enfant de Simone de Beauvoir et de Pierre Bourdieu. Oui.
Vous disiez à l'instant, c'est votre homosexualité vous a permis une ouverture culturelle différente.
Bien sûr, une ouverture culturelle tout court, parce que l'aspiration à la culture, c'était pour moi lire Jean Genet, lire le Saint Genet, le livre de Sartre Saint Genet, qui a été pour moi un des livres les plus importants de ma vie. lire les mémoires de Beauvoir, qui, alors là, c'était tout à fait différent. C'était des mondes différents de. Moi, j'habitais dans une cité ouvrière récemment construite à la périphérie de la ville. Lire Simone de Beauvoir décrivant Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés, les amitiés avec Genet, avec Sarraute, avec Sartre, bien sûr. Et j'ai fait dans mes études. Ensuite, j'ai fait un mémoire de ce qu'on appelait maîtrise à l'époque, ce serait master maintenant, sur Sartre et l'existentialisme français, parce que j'étais vraiment marqué par cette idée de la liberté. Après, je suis devenu plus bourdieusien, et donc j'ai calmé mon fantasme de philosophique de liberté, mais l'idée de liberté, cette phrase que je crois que je la cite dans Retour à Reims, cette phrase de Saint-Genest qui a marqué toute ma vie, où dans Saint-Genest, Sartre écrit « L'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. » Et ça, cette phrase, c'était mon guide dans l'existence. Je savais ce qu'on avait fait de moi, ce que j'étais, et les possibilités et impossibilités qui étaient les miennes, sociales, culturelles, etc. Et j'ai voulu surmonter toutes ces impossibilités, toutes ces barrières, toutes ces frontières, ce qui n'a pas toujours été facile, parce que justement, beaucoup d'échecs, beaucoup de déconvenus, et une carrière différée, parce que, voilà, quand on vient pas de... Il vaut mieux naître dans la bourgeoisie parisienne, si vous voulez faire les filières les plus prestigieuses de l'université ou de la vie universitaire française, faire l'école normale supérieure, etc. Or, moi, c'était pas... Faire d'abord les classes préparatoires, je savais même pas que ça existait quand j'étais lycéen. Et donc, je n'ai pas eu accès à ces filières royales, prestigieuses. J'ai dû inventer ma trajectoire par des détours, souvent longs. Et donc, j'ai eu une sorte de carrière différée. Et Édouard Louis, quand Édouard Louis, qui a été mon étudiant... Il me racontait son enfance, son adolescence, et je lui avais dit, vous devriez écrire tout ça. Et il m'avait dit, je ne saurais jamais, vous ne pouvez pas savoir tant que vous n'avez pas essayé. Et il m'avait dit, mais je n'ai pas la légitimité. Alors, je lui ai dit, alors ça, n'attendez pas qu'on vous la donne, prenez-la, vous la donnez vous-même, à vous-même, sinon... la légitimité, on vous la donnera après, mais il faut la conquérir. Il faut n'ayez pas cette idée que parce que sinon, ça veut dire que seuls les enfants de la bourgeoisie, qui eux n'ont aucun problème pour penser qu'ils sont légitimes, il n'y a que les enfants de la bourgeoisie qui écriraient des livres, feraient du cinéma, du théâtre, de l'art, etc.
Vous avez évoqué votre livre Retour à Reims plusieurs fois depuis le début de l'entretien. Dans Sociobiographie, on y revient assez longuement sur cet immense succès finalement. Et avec le recul, avez-vous compris pourquoi ça a été ce succès-là? Et au moment de l'écriture, pensiez-vous déjà qu'il serait ainsi?
Ah non, quand je l'écrivais, je pensais qu'il aurait un certain écho, qu'il trouverait des lecteurs, des lectrices, bien sûr. J'avais des lecteurs, j'avais déjà publié ma biographie de Michel Foucault, j'avais publié Réflexions sur la question gay, qui avaient été des très grands succès de vente et de comment dire, qui avaient eu beaucoup d'écho. Je pensais que Retour à Reims aurait des lecteurs, des lectrices, qu'on en parlerait, mais je ne pensais pas qu'il aurait qu'il arriverait comme ça, comme un choc.
C'est l'œuvre référence?
Je ne sais pas. Ça, c'est pas moi qui veut le dire. C'est celles qui le lisent. C'est étonnant parce que beaucoup de gens, quand le livre est sorti en France. Il a eu tout de suite un succès considérable qui m'a, je dois dire, surpris, parce que je ne m'attendais pas à... je pensais qu'il aurait, comme je viens de dire, un certain écho, mais je ne m'attendais pas à ce que cet écho dépasse très largement le public que je considérais comme destinataire de ce livre. Et je faisais des rencontres comme celle-ci où il y avait beaucoup, beaucoup de monde et des gens venaient, après la rencontre, me dire « c'est mon histoire que vous racontez ». Et se mettaient à me raconter leur histoire, qui n'était pas du tout la même que la mienne, bien sûr, mais ça voulait dire que j'avais proposé une sorte de grille d'analyse, proposé des principes de perception de soi qui pouvaient, en étant transposés à des histoires différentes, bien sûr, beaucoup de femmes m'ont dit « c'est mon histoire », femmes hétérosexuelles, femmes de tous les âges m'ont dit « c'est mon histoire ». Donc, évidemment, ça ne pouvait pas être la même histoire que la mienne, mais c'était quand même la même histoire parce qu'il y a la question des classes sociales, qui est évidemment identique, la question des obstacles, comment la classe sociale vous accompagne toute votre vie, même quand vous croyez avoir dépassé les limitations qui viennent de votre milieu d'origine, de vos origines sociales, ça se reconduit toujours. Donc, je ne m'attendais pas. Je m'attendais donc pas à ce succès. Mais le livre est commencé à être traduit en Argentine, au Brésil, en Allemagne, à devenir des best-sellers, à occuper des pages et des pages de journaux, des colloques universitaires, etc. Et puis des adaptations au théâtre. La première fois, une adaptation au théâtre, un metteur en scène m'écrit en me disant je voudrais adapter Retour à Reims au théâtre, c'était pour le Festival d'Avignon, est-ce que vous me donnez l'autorisation? Alors je vois vraiment pas comment on peut adapter ce livre au théâtre, et il me répond mais c'est pas la question que je vous posais, ça c'est mon travail, la question que je vous posais c'est est-ce que vous me donnez l'autorisation? Je dis oh bah oui bien sûr, allez-y, faites ce que vous voulez. Et donc j'allais pas empêcher les artistes de faire ce qu'ils voulaient faire, et donc il a fait ce spectacle qui a eu un très très grand succès à Avignon et ensuite dans toute la France. Puis ça a été des adaptations au théâtre en Allemagne, en Suède, en Italie, au Brésil, et ça pour Retour à Reims, ensuite le Vie vieillesse est mort a été adapté aussi. Ça m'a beaucoup le rayonnement de Retour à Reims m'a beaucoup étonné, parce que c'est comment dire un best-seller qui d'ailleurs depuis 10 ans ne se dément pas en Allemagne, dans d'autres pays, et dans certains ce que les lecteurs de ces pays retiennent n'est pas toujours la même chose. En Allemagne, ce qui a été au départ retenu sont les chapitres sur la montée du Front National en France, de l'extrême droite. Évidemment, en essayant d'expliquer pourquoi ma famille, qui était une famille qui votait communiste quand j'étais enfant, enfin adolescent, où on disait nous, la classe ouvrière, nous, les ouvriers, on parlait le parti, on ne disait pas le parti communiste, on disait le parti, les dirigeants, le parti recommande, le parti voudrait, le parti veut, c'était la référence. C'était dans ma famille l'image de c'était pas simplement un vote de temps en temps, c'était une image de soi-même, une identité politique, sociale, une fierté aussi, une dignité. C'était à travers le vote pour ce parti que je n'ai jamais aimé. Moi, j'ai toujours détesté le Parti communiste, mais dans ma famille, c'était, puisque c'était des ouvriers, c'était le parti qui disait nous sommes le parti de la classe ouvrière. Et pour beaucoup de gens de ma famille, pour presque toute ma famille, c'était le parti qui leur donnait une dignité dans l'espace politique, dans la sphère politique. C'était très important. Et puis, quand je me suis aperçu que toute cette culture-là disparaissait, s'effaçait, et que quand j'ai découvert que ma mère avait voté pour Jean-Marie Le Pen et tout ça, que je l'ai questionné, et c'était un choix réfléchi. Je ne peux pas dire elle était stupide, non, c'était un choix réfléchi. Elle savait ce qu'elle faisait, elle savait pourquoi elle le faisait, même si ça me déplaisait profondément, mais elle savait pourquoi elle le faisait. Elle pouvait essayer de m'expliquer pourquoi. Il y a donc deux chapitres dans Retour à Reims où j'essaie d'analyser ça, sur comment l'effondrement du Parti communiste puis le fait que la gauche institutionnelle, le Parti socialiste, pour dire les choses comme elles sont, avait totalement renoncé à se faire justement le porte-parole des classes défavorisées. Il n'y a plus de classe sociale, aujourd'hui c'est une vaste classe moyenne, il n'y a plus de classe. Tout ceci pour dire qu'il n'y a pas de déterminisme de classe et donc chacun est ramené à sa responsabilité individuelle. Si vous réussissez pas dans la vie, c'est parce que vous n'avez pas assez travaillé. Et évidemment, si vous allez dire ça à des gens qui travaillent en usine, leur réaction, c'est d'aller voter pour un autre parti qui dit « Nous sommes le parti qui représente le peuple, les ouvriers, etc. » Malheureusement, cet autre parti avait a toujours le visage hideux à l'époque, c'était Jean-Marie, maintenant c'est sa fille, et puis l'autre, là, celui qui nous arrive, mon Dieu, c'est... Mais la gauche traditionnelle est responsable de ça en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, j'étais à Copenhague il y a une quinzaine de jours, les gens vous expliquaient parfaitement ce qui se passe dans notre pays. C'est un livre qui a 15 ans maintenant. Vous expliquez ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Donc, dans plusieurs pays, notamment l'Allemagne, c'est ces chapitres-là qui ont donné cet écho au livre. Puis ensuite, il y a eu la question des classes sociales, des trajectoires de classe. Donc, tout ça pour dire, je ne m'attendais pas à cet écho. Je ne m'attendais pas, il faut dire, quand mon livre est sorti, je disais que ma mère ne votait plus à gauche, mais votait pour le Rassemblement National ou le Front National. Des gens, des sociologues ont dit « Mais la mère de Didier Ribon n'est pas représentative de la classe ouvrière, etc. » Je n'avais pas dit qu'elle était représentative, j'avais dit qu'elle votait pour le Front National, comme plusieurs personnes de ma famille, comme mes frères, etc. etc. Et à ce moment-là, c'était le début d'un phénomène qui...
Justement, venons-en à aujourd'hui, parce que ce livre, il a une quinzaine d'années. Vous pourriez réécrire Retour dans les mêmes conditions aujourd'hui, c'est-à-dire que la mobilité sociale que vous décrivez fort bien dans ce livre, est-ce qu'elle est encore possible aujourd'hui? Elle peut se faire dans les mêmes conditions?
La mobilité sociale est possible, mais elle est toujours limitée par le point de départ. Une ascension sociale est toujours limitée par le point de départ, et suivant le lieu social d'où vous partez, vous n'arriverez pas, vous ne deviendrez pas un grand chirurgien dans un grand hôpital. Si vous êtes un enfant de la classe ouvrière, vous ne deviendrez pas un grand avocat d'affaires, etc. L'ascension sociale existe, mais elle est toujours limitée, et la classe sociale existe toujours. Évidemment, c'est plus les classes sociales telles que Marx les décrivait, les analysait. Les concepts sont faits pour être revisités, retravaillés, réélaborés. On peut pas prendre des concepts comme ça. Mais l'idée de classe, si vous renoncez à l'idée de classe, vous ne comprenez rien au monde social aujourd'hui, à ce qui se passe dans la vie sociale, dans la politique aujourd'hui. Puisque j'ai vu les statistiques, je crois que 51% des ouvriers aujourd'hui votent pour le Rassemblement National. Alors quand on m'a dit votre mère n'est pas, la mère de Diribon n'est pas représentative, et un journal allemand qui tout récemment a fait un portrait de moi, et le titre c'était Didier Ribon, celui qui a prophétisé le prophète du désastre, à cause évidemment de la montée de l'extrême droite. Et c'était un article très gentil qui m'accordait beaucoup, mais c'est pas parce que je suis pas un prophète, c'est que j'ai vu dans ma famille ce qui se passait. Je l'ai vu au début de ce processus, et donc je suis pas prophète, mais j'étais simplement un observateur. Et ma mère était peut-être pas représentative, mais disons qu'elle était pionnière de quelque chose. Elle n'était pas représentative, mais elle allait le devenir. Ce qui s'est passé après, c'était ce que j'avais vu se mettre en place au moment où ça commençait. Ma mère était pionnière. Son racisme, sans doute beaucoup, son racisme obsessionnel, a sans doute, dont je parle dans Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple, a sans doute beaucoup aidé à son passage de la gauche à l'extrême droite, comme pour beaucoup de gens. Le racisme est un facteur très, très important, l'hostilité aux immigrés, etc. Mais de fait, l'absence de mobilité sociale fait que, pour beaucoup de gens, c'est la volonté de protester contre leur situation ne peut pas s'exprimer autrement que par un vote pour l'extrême droite. Vous regardez des études ont montré que l'un des principaux facteurs du vote pour l'extrême droite, c'était la disparition des services publics. Si vous êtes dans une ville où petite ville où l'école primaire ferme, la poste, bureau de poste ferme, la gare ferme, l'antenne médicale ferme, tout ferme. Et vous devez faire 100 km pour voir un médecin. Et évidemment, les gens se sentent relégués, sont relégués, sont ignorés, sont méprisés, se sentent méprisés, mais d'une certaine manière le sont. Et leur réaction à ça, de voter pour l'extrême droite. Alors quand ils trouvent un autre moyen de protester, c'est les gilets jaunes, c'est 40 personnes qui perdent un œil, c'est des centaines qui sont mutilées à vie, c'est des gens qui sont emprisonnés, etc. Bon, vous n'avez pas trop envie de recommencer. La violence répressive qui s'est déchaînée sous les ordres de M. Macron, qui s'est déchaînée contre les gilets jaunes ou contre les manifestations en général, il ne vous reste plus comme moyen de protester que le vote pour l'extrême droite.
Vous l'avez été dans votre propos tout à l'heure, très sévère sur la gauche de gouvernement, la gauche social-démocrate. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir ?
Je n'aime pas dire qu'il n'y a plus d'espoir, parce que précisément, j'essaie toujours d'ouvrir des fenêtres sur ce qui peut donner de l'espoir pour des perspectives. Mais actuellement, la situation n'est pas très riante, que ça soit en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Portugal, aux États. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis. Alors, pourquoi est-ce que Trump a été élu ? Ce sont les ouvriers, enfin les classes populaires, travailleuses blanches. Précarisés dans des régions désindustrialisées, les chômeurs, etc., qui ont voté pour lui parce que ces classes-là se sentaient délaissées par l'establishment démocrate. Vous voyez, quand vous avez Hillary Clinton qui vient faire campagne et qui dit dans ces États-là, ce sont des imbéciles, ignorants, etc. Bon, insulter les électeurs n'est pas la meilleure manière de leur demander de voter pour vous. Donc l'espoir, pour moi, c'est des politiques qui proposent le rétablissement des services publics, la restauration des services publics. Bon, on ne va pas vers ça, puisque les lits d'hôpitaux sont fermés, des secteurs entiers, des maternités sont fermées. On supprime des classes dans les écoles, on supprime des postes de professeurs, on supprime des postes de médecins, etc., etc. On ne va pas vers ça. Mais malgré tout, on peut toujours espérer. Bon, c'est un secret, c'est pas un secret. Moi, je suis un électeur et un soutien de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise. Je ne suis pas un soutien inconditionnel, je peux avoir mes critiques, mon regard avec une certaine distance, mais je pense qu'il faut voter pour des partis dont le programme explicite est de soutenir les droits des individus, les services publics, les possibilités offertes à tous de suivre des formations, d'accéder à l'éducation, d'accéder à l'hôpital, etc. Donc, je suis pas un dévot de Jean-Luc Mélenchon ou de Mathilde Panot, mais ce sont des gens pour qui je vote et que je soutiens parce que leur discours me semble, leur programme, leur engagement me semble justement incarner un certain espoir.
Et oui, vous disiez même, je crois, dans une émission récente de France Culture, c'est un mouvement qui a de redonner foi à la politique.
Oui, c'était une émission de France Culture où j'allais pour parler de sociobiographie et où on ne m'a parlé que de... Parce que j'ai eu le malheur de défendre en deux mots Jean-Luc Mélenchon, l'animateur, dont le moins qu'on puisse dire qu'il n'est pas un électeur ni un soutien de Jean-Luc Mélenchon. Les médias sont très 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 hostiles à la gauche et notamment à une gauche qui se présente comme une gauche de rupture. Toute l'émission et mon éditrice était furieuse. Mais
je ne veux pas refaire l'émission, mais la formulation sur le.
Mais de fait, comme je l'ai dit. Parce qu'il me dit, il y a un livre qui décrit le fonctionnement interne de la France insoumise. Moi, je ne suis pas membre de la France insoumise, je m'en fous du fonctionnement interne. Que Jean-Luc Mélenchon ait un mauvais caractère, voilà, c'est possible. Mais quand il dit qu'il faut rétablir les services publics, quand les autres disent qu'il faut les supprimer parce que ça coûte trop cher, je préfère celui qui a un mauvais caractère et qui veut restaurer les services publics que ceux qui ont... Il faudrait voir s'ils ont un si bon caractère que ça et comment ça se passe dans leur propre parti. Moi, j'ai vu dans la campagne de 2022 pour les présidentielles et la campagne de 2024 pour les législatives, j'ai vu en effet une génération de jeunes gens qui étaient dégoûtés de la politique, qui n'allaient pas voter, qui n'avaient jamais voté, qui ne voulaient plus voter, se mobiliser pour Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, et des gens d'une autre génération plus âgée, qui étaient dégoûtés aussi de la France insoumise, du Parti socialiste et qui s'abstenaient, et qui sont allés voter pour la France insoumise, parce que le fait qu'il y a eu des accords internes, que des anciens députés, enfin des députés n'aient pas été réinvestis dans leur circonscription, ça c'est de la cuisine interne, qui ne m'intéresse pas beaucoup, mais de fait, Mélenchon et la France insoumise, c'est pas seulement des petites... parce que le livre, visiblement, c'est ça, c'est des ragots, un tel a dit ça, une telle a dit ça, et des ragots d'ailleurs qui ont souvent été démentis par les gens, les propos démentis par les gens à qui ils étaient attribués, mais on ne peut pas ignorer qu'il y a une dynamique incroyable qui s'est déclenchée, qui a été déclenchée par ce mouvement qui, si on ne dit pas que la France insoumise est soutenue par Annie Ernaux, par moi, par Édouard Louis, par Chantal Mouffe et par tant d'autres, Laurent Binet, enfin le nombre d'écrivains, d'artistes, de militants associatifs dans les quartiers, partout. Si on ne dit pas ça, on passe à côté de l'essentiel. Et moi, le caractère de l'un ou de l'autre, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Je ne vais pas aller en vacances avec eux, donc c'est pas mon problème. Mais moi, je vois ce qu'ils font, ce qu'ils proposent et ce que signifie ce qu'ils proposent pour le monde dans lequel nous vivons.
Et un dernier mot de politique, mais vous décrivez le basculement finalement des classes populaires vers l'extrême droite. Est-ce que dans ce mouvement-là, la gauche intellectuelle n'a-t-elle pas elle aussi une part de responsabilité ?
Oh, bien sûr, oui. Oui, oui, parce qu'elle oublie très souvent les classes populaires, elle aussi, avec des problèmes. Moi, En Allemagne, j'ai beaucoup d'amis au mouvement Die Linke, qui est le mouvement de gauche allemand. Et j'étais dans une... je dînais avec des amis qui sont des responsables de Die Linke. Et l'une d'elles me dit « Oh, j'avais une réunion l'autre jour avec la réunion du quartier. » Et j'ai dit « Avant de commencer la réunion, chacun va dire son pronom. » Et il y a un vieux camarade qui dit « C'est quoi son pronom ?» Bon, on est des camarades, on se dit « tu ». Tout le monde se dit « tu ». Elle dit « Non, c'est, il, elle, ou, ni, il, ni ». Et évidemment, si vous posez des problèmes qui sont, je veux bien dans l'université, qu'on réfléchisse au genre... Judith Butler est une de mes très grandes amies depuis 30 ans, donc je ne critique pas ces questionnements-là, théorie, ou même pratique, mais si dans une réunion avec vous voulez faire venir les classes populaires et au lieu de poser la question quel va être le programme pour les transports, pour l'éducation, la première question c'est quels sont vos pronoms, est-ce que faut vous appeler il, elle, etc. Je trouve qu'en effet les universitaires qui sont souvent dans ces parties, notamment en Allemagne, c'est le monde éduqué des grandes villes qui anime et fait la force électorale de ces partis. Ce monde éduqué des grandes villes devrait aussi de temps en temps se poser la question de à qui on s'adresse et quels sont les problèmes. Si vous avez un vieux syndicaliste, ses problèmes c'est pas ses pronoms, c'est son existence quotidienne, celle de sa famille, celle de ses proches, etc., de son quartier. Donc ici, vous avez raison, la gauche radicale, la gauche de rupture, a une part de responsabilité, et les universitaires qui sont là à ce qu'on appelle le wokisme, moi je défends toujours le wokisme, parce que si ça veut dire être conscient des discriminations, des problèmes, je suis pauvre, mais si ça veut dire faire chier à chaque instant sur le mot que vous avez employé, qu'il ne fallait pas employer, etc., ici il y a des, comment dire, il y a des marginalisation, auto-marginalisation, et c'est déjà assez difficile comme ça dans l'espace général dans lequel nous sommes, pour pas s'auto-marginaliser avec des questions, des questionnements, des problèmes qui sont à mes yeux importants mais très limités.
Je voudrais, avant de passer la parole au public pour quelques questions, qu'on revienne également sur deux, trois thèmes complémentaires, notamment celui autour de la vieillesse, puisque vous revenez longuement sur le livre « Vie et vieillesse et mort d'une femme du peuple », en partageant ce qui n'est pas visible là non plus aujourd'hui, la détresse et le fait que la vieillesse, les personnes âgées sont invisibles. Ce thème-là, vous le développez assez en profondeur dans Sociobiographie, mais la vieillesse aujourd'hui, a-t-elle la parole aujourd'hui ?
En fait, Retour à Reims, j'ai commencé Retour à Reims à la mort de mon père. Et Vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple, je l'ai commencé après la mort de ma mère. Parce que je l'avais installé, mes frères et moi avions installé notre mère dans une maison de retraite. Et moi, j'ignorais tout des maisons de retraite. Je pensais qu'elles seraient bien. Et comme je le lui disais quand nous l'avons installée, tu verras, tu seras bien. J'ai découvert après que c'était une chanson de Jean Ferrat, tu verras, tu seras bien. J'étais horrifié d'avoir récité comme ça ce que tout le monde dit à un parent qu'on installe dans une maison de retraite. Tu verras, c'est une très très belle chanson de Jean Ferrat, tu verras, tu seras bien. Et de fait, elle n'était pas bien du tout. Elle me laissait des messages sur mon répondeur téléphonique la nuit. On me maltraite ici, je suis malheureuse, je ne veux pas rester. Et donc le lendemain, j'appelais le médecin de la maison de retraite, qui était une femme très, très bienveillante et très compétente. Je n'ai rien à lui reprocher. Et elle me dit... Parce que ma mère me disait, on m'interdit de prendre des douches. Alors j'appelais le médecin, cette femme médecin me disait, on ne lui interdit pas de prendre des douches, mais... Pour la lever de son lit parce qu'elle ne peut plus marcher, j'ai besoin de deux aides-soignants, deux hommes. Et comme je n'ai pas assez de personnel, ça n'est possible qu'une fois par semaine. Quand elle me faisait des réponses comme ça, j'étais mais horrifié. Mais comment, une maison de retraite du service public, comment il est possible qu'on me réponde « il n'y a pas assez de personnel » pour que les résidents de cette maison de retraite puissent prendre une douche tous les jours. Et je me disais, ben voilà, nous n'aurions pas dû choisir une maison de retraite du service public, c'est sous-financé, c'est le scandale du service public, etc. Nous aurions dû l'installer dans une maison de retraite privée. Et puis est sorti le livre de Victor Castanet, Les Fossoyeurs, sur une maison de retraite privée de la banlieue parisienne, où il faut payer 12 000 euros par mois pour installer, 12 000 euros par mois pour installer une personne âgée. Qui peut payer 12 000 euros par mois? Et où Victor Castanet, son livre est terrible, on fait des économies, on supprime, il y avait deux biscottes, on en supprime une, et des choses plus laides encore, on changeait les couches deux fois par jour, on les change une fois par jour, et parfois tous les deux jours, pour faire des économies sur les couches, ce qui pour des personnes, évidemment, pour qui c'est important que les couches soient changées, rend la vie terrible, et tout ça pour que la société financière qui possède cette maison de retraite puisse verser des dividendes aux actionnaires, ce qu'ils appellent l'or gris, ce qui est des choses où on a envie de vomir, de hurler, enfin je sais pas. Et donc je me suis dit, le secteur privé public est sous-financé, le secteur privé est régi par la loi la plus obscène du profit, et ici il y a une question de la vieillesse, parce qu'évidemment, on ne le sait pas. Moi, je ne le savais pas avant. Je me suis intéressé à ces questions quand ma mère s'est trouvée dans cette situation. Et donc, j'ai voulu faire ce livre. Et alors, ce qui est étrange, c'est qu'on s'aperçoit à ce moment-là que la vieillesse n'est pas invisible. Il y a des films. Le film magnifique de Michael Haneke, Amour. Le film de Nanni Moretti, Mia Madre. Il y a des livres sur la maison de retraite.
Mais la vieillesse est peu dans le débat public.
Mais, il y a des films, des livres, le grand roman de Bohumil Hrabal qui s'appelle Les Millions d'Arlequin. Il y a des livres, mais on les lit, on voit les films, et ça n'est pas thématisé comme une question sociale, politique. Et quand c'est dans le débat public, parce que quand le livre de Victor Castanet est sorti, il y avait des doubles pages dans tous les journaux, les émissions de télévision, de radio, etc. Le scandale énorme. Et puis, trois mois après, le scandale énorme est oublié, et on revient à la situation qui est toujours la même, c'est-à-dire sous-financement du service public, ce qui est un scandale absolu, ne serait-ce d'ailleurs que par un intérêt égoïste, un souci de soi bien compris, on devrait se préoccuper du financement des maisons de retraite, parce qu'on se dit que un jour c'est ce qui nous attend, et on
devrait... Vous parlez de l'autre âge d'ailleurs.
L'autre âge, oui, parce que Beauvoir dit le deuxième sexe, et là c'est même pas le troisième âge, l'autre âge auquel on a beaucoup de mal à s'identifier tant qu'on n'y est pas arrivé. Je vais rééditer là chez Flammarion, en Champ Flammarion, en janvier, le livre de Norbert Elias qui s'appelle La solitude des mourants, que je cite beaucoup dans Vieillesse et mort d'une femme du peuple, qui n'était plus disponible depuis très longtemps. Et je le réédite là chez Flammarion avec une postface que j'ai rédigée pour en présenter les enjeux. On ne peut pas dire qu'on n'en parle pas, mais ça n'a aucune. Tout simplement parce que Beauvoir, dans le deuxième sexe, Beauvoir, au début du deuxième sexe, dit les ouvriers disent nous, les noirs américains disent nous, s'organisent comme des mouvements, les femmes ne disent pas nous, ils s'organisent pas comme un mouvement. C'était en 49, vous savez comme moi que les choses ont bien changé, heureusement. Mais elle posait la question, les femmes ne disent pas nous. Et pour dire nous, il faut un mouvement. Et les femmes s'organisent. Font des manifestations, des rassemblements, des colloques, publient des journaux, des publications, etc. Mais les personnes âgées qui ont perdu leur autonomie physique, elles ne vont pas aller Elles vont pas aller manifester puisqu'elles peuvent pas marcher. Elles vont pas publier un journal. Elles vont pas organiser un colloque. Elles n'ont pas accès à la parole collective. Ma mère protestait contre sa situation. Elle me laissait des messages qui étaient des messages éminemment politiques. Mais qu'est-ce que c'est qu'un message politique qui n'accède pas à la sphère publique, à la sphère politique? Et donc, j'ai voulu, dans ce livre-là, faire entendre la voix de ma mère, c'est-à-dire la voix de toutes les personnes qui se trouvaient et qui se trouvent aujourd'hui dans la même situation qu'elle. Et je cite beaucoup le livre de Norbert Elias, La solitude des mourants, mais l'autre grand livre sur ces questions que je cite, c'est celui de Simone de Beauvoir, qui s'appelle La vieillesse, et qui, bizarrement, j'essaie de rendre compte de ça, qui, bizarrement, est un livre tout à fait inconnu. Le deuxième sexe est un des livres les plus célèbres dans le monde entier, les plus discutés, les plus commentés, les plus lus, parce qu'il y a un mouvement des femmes. Et donc, un intérêt politique, théorique, etc., pour un livre comme celui-là. Mais comme il n'y a pas de mouvement des personnes âgées, le livre de Beauvoir, dont elle disait elle-même, c'est un livre symétrique au deuxième sexe, ce livre-là était tombé totalement dans l'oubli. Et quand j'écrivais « Vieillesse et mort », je parlais à mes amis, je suis en train de relire « La vieillesse » de Beauvoir, et mes amis, même mes amis féministes, ont lu chaque ligne publiée, même chaque ligne non publiée de Beauvoir, « Ah, j'ai pas lu celui-là, ou je connais pas celui-là ». Et donc, il y a là un enjeu, c'est pas qu'on n'en parle pas, Beauvoir en avait parlé en 1970, mais simplement, ça ne débouche pas sur un débat public. Et je parlais des partis politiques. Nous devons demander aux partis politiques que nous soutenons, pour lesquels nous votons, d'intégrer dans leur programme la question du grand âge, et notamment du grand âge dépendant. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les maisons de retraite? Qu'est-ce que vous comptez faire pour les personnes âgées? Quels sont vos projets? Est-ce que vous travaillez avec des gériatres, des architectes, des urbanistes, pour repenser toutes ces questions? Et si vous dites, oh non, ça ne nous intéresse pas, alors nous allons voter pour un autre parti. Voilà, parce que ce sont des questions quand même importantes.
Deux dernières questions rapides avant de passer aux
questions. Les réponses sont longues.
Non, pas du tout. Vous évoquez en conclusion vos prochains travaux, notamment votre prochain livre, En écho à Retour à Reims. Vous évoquez un arrivé à Paris, c'est ça?
Oui. Alors, question cruelle. Parce que, oui, je travaille un livre qui s'appelle Arrivé à Paris, qui sera, c'est ça comme, c'est un titre provisoire. Hein. Mais quand j'ai dit ça à mon éditrice, elle me dit, ah non, Didier, pas provisoire du tout. Ça me va très bien. Et ce que je voudrais faire, c'est qu'est-ce que c'est que, comme les reprendre là où Retour à Reims s'arrête. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que changer de milieu? Qu'est-ce que c'est que changer de milieu social? Qu'est-ce que ça implique? Décrire les milieux sociaux que j'ai traversés, le monde du journalisme, faire une analyse du monde du journalisme, reprendre les analyses de Bourdieu son livre sur la télévision, décrire, puisque j'y ai participé, décrire le fonctionnement de ce monde, mais aussi décrire parce que quand j'ai travaillé à Libération ou au Nouvel Observateur, c'est des journaux qui avaient été très, très, très marqués par mai 68, l'héritage de mai 68, et qui ont trahi tout ça, abandonné, trahi tout ça. Et je voudrais réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un mouvement politique comme mai 68, et comment une sorte d'insurrection générale avec 10 millions de travailleurs en grève, des manifestations gigantesques partout. Et puis, ça disparaît. On a l'impression que tout change. Et puis, ça disparaît au bout de quelques années, notamment du fait de gens qui y ont participé et qui retrouvent après ce détour dans leur carrière, qui retrouvent ce à quoi ils étaient promis, c'est-à-dire les postes politiques, les postes journalistes, médiatiques, etc., auxquels ils auraient eu accès s'ils n'avaient pas fait mai 68, parce qu'ils venaient de la bourgeoisie. Donc j'essaie d'analyser ça. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Berlinguer, qui est un film sur l'ancien dirigeant du Parti communiste italien, le Parti communiste italien obtenait dans les années, à la fin des années 70 et 80, dans les années 80, obtenait 34-35% des voix. C'était une force gigantesque. Berlinguer meurt. Il y a 1,5 million de personnes qui assistent à son enterrement. Les images d'archives qu'on voit dans ce film sont impressionnantes. C'est une foule inimaginable. Et puis, quelques années après, le Parti communiste s'auto-dissout. Tout cet héritage-là disparaît. Et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? Madame Meloni. Et donc, je voudrais analyser ça. Arriver à Paris, c'est aussi ça. C'est comment... Des mobilisations, des effervescences politiques, des héritages politiques sont comme ça, on a l'impression que ça ne disparaîtra jamais, et en quelques années ça s'efface, ça disparaît. Et alors beaucoup d'écrivains italiens notamment ont essayé d'analyser ça. Je voudrais reprendre ces questions. Donc je voudrais analyser ça, je voudrais analyser l'université, puisqu'ensuite je suis devenu universitaire, le fonctionnement de l'université, le fonctionnement du monde de l'édition. Voilà, donc arriver à Paris, c'est encore une fois une sociobiographie, c'est pas moi, c'est les mondes, c'est à travers mon expérience personnelle, comment j'ai connu ces milieux, essayer de les analyser socialement, politiquement. Et donc pour l'instant, c'est pas... Je me suis arrêté parce que je voudrais écrire un petit livre sur Foucault qui s'appelle, que je relisais dans le train là, parce que quand je dis je voudrais écrire, c'est un livre que j'avais écrit et que j'ai pas publié, et j'envisage de le reprendre et de le publier, qui s'appellerait Au sujet du pouvoir. Et voilà, donc pour l'instant il y a deux projets dont l'un devrait paraître en septembre, le petit livre sur Foucault, et l'autre en septembre prochain, et l'autre à une date indéterminée.
Un dernier mot, moi j'ai découvert à travers ce livre votre passion pour l'opéra, et ce qui va nous permettre de boucler cet entretien, parce que vous savez que cet espace, cher à la Librairie des Volcans, a été inauguré le 6 septembre par Richard Bettuzzi, qui a contribué à la création de cet espace. Donc on boucle avec l'opéra. Qu'est-ce que vous apporte l'opéra ? Quelle est cette passion ? C'est un point d'équilibre, l'opéra, pour vous ?
Oh, d'équilibre, je ne sais pas. C'est une passion, oui. J'adore aller à l'opéra. Malheureusement, les prix sont un peu prohibitifs. À Paris, en tout cas. Dans d'autres villes, c'est moins cher. Mais les prix à Paris ou dans d'autres villes à l'étranger, c'est des prix prohibitifs. Mais j'y vais chaque fois que je peux. Et... oui, c'est une passion. Et je dois dire que, évidemment, quand j'étais adolescent, on ne savait pas ce que c'était l'opéra. On n'allait déjà pas au théâtre ni au cinéma. On n'allait pas à l'opéra dans ma famille. Et ça a été aimer l'opéra, j'en ai bien conscience. Ça a été aussi aller chercher le plaisir culturel le plus éloigné de mon milieu social pour me donner une image, une identité distinctive. Mais à force de se donner l'identité distinctive, on finit par adhérer à ce par quoi on veut se distinguer. Et je me suis pris de passion pour l'opéra. Je vais à l'Opéra de Paris. Je dis pas toutes les semaines parce que malheureusement c'est trop cher et je n'ai pas le temps, mais je dirais bien une fois par trimestre. Et c'est des plaisirs. Alors, le plaisir que donne l'opéra, c'est vous avez la musique, vous avez les voix, vous avez la mise en scène. C'est du théâtre, de la musique, du chant. C'est un plaisir esthétique que je trouve incomparable. Donc j'en écoute, je vais à l'opéra, mais j'en écoute évidemment chez moi. Parce que je suis encore quelqu'un qui a une chaîne avec des DVD. J'écoute des opéras tout le temps, quoi. Oui, j'adore ça. Et donc, mon intervieweur, Geoffroy Huin, à la fin, me pose ses questions sur ma passion pour l'opéra. Donc, j'essaie de répondre. Mais aussi, comme opéra, l'opéra comme facteur de distinction sociale. Quand vous allez à l'opéra, c'est pas les ouvriers, c'est pas les femmes de ménage, c'est pas les aides-soignantes de l'hôpital qui sont là. Il faut aussi être conscient, il faut être bien conscient de ça, que vous participez quand vous allez à l'opéra à des rituels culturels qui sont des pratiques d'exclusion. Bourdieu se posait la question qu'est-ce que c'est qu'aller, pourquoi est-ce qu'il y a des musées? C'est pour que les ouvriers n'y aillent pas et que seule la bourgeoisie y aille. C'est une manière de résumer un peu abrupte, mais il y a quelque chose de ça dans le musée, il y a quelque chose de ça dans le théâtre, et je dirais que c'est encore plus éminent évidemment pour l'opéra. C'est pas seulement le prix des places, parce que À l'Opéra de Paris, ils ont instauré un système qui s'appelle l'avant-première jeune pour les moins de 28 ans. C'est 10 euros la place, avec les mêmes distributions, les mêmes chefs d'orchestre, etc. C'est plein, évidemment, chaque avant-première jeune, moins de 28 ans, à 10 euros la place. C'est archi-complet dès qu'ils ouvrent la location. Mais un de mes amis qui travaille à l'Opéra m'a dit, c'est 10 euros, mais ça n'élargit pas du tout le public. Ce sont les enfants de ceux qui payent 150 euros pour les autres représentations et qui profitent du fait que c'est 10 euros. Et il n'y a pas du tout... Alors, ce n'est pas de la faute de l'opéra. Hein. C'est que ce n'est pas seulement le prix. C'est avoir l'envie d'y aller, c'est-à-dire connaître... faudrait tout un apprentissage, mais voilà, c'est aussi une question d'appartenance sociale et de reproduction de ce privilège social et culturel qu'incarne le concert de musique classique et encore plus l'opéra. Donc j'essaie d'analyser tout ça, mon goût pour l'opéra, ma passion même pour l'opéra, et ma conscience aiguë du fait que c'est un plaisir de privilégié qui n'est pas accessible, ou même quand c'est accessible, auquel n'accèdent pas les classes populaires, et même d'ailleurs les classes moyennes, beaucoup de gens ne... Bon, cela dit, on n'est pas obligé d'aller à l'opéra, on peut autre chose, on peut aller au concert de métal ou de hard rock, chacun ses goûts. Mais,
merci. Mon rôle aussi, Didier Rimon, est d'être le gardien du temps. Et je crains que nous ayons dépassé le temps qui nous était consacré. Il me reste vraiment à vous remercier beaucoup pour votre disponibilité pour cet échange. Et autour de sociobiographie, je crois que beaucoup de personnes attendent que vous puissiez compléter l'échange lors de la séance de dédicace. Merci à vous. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Merci.
Thank you.